Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vous nous écoutez en direct sur la radio Bendougou de Bla au 104.1 FM. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Voici les titres. Campagne agricole 2022-2023, la subvention des engrais coûtera à l'État 17 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances. Il a aussi affirmé que plus de 50% de livraisons des intrants agricoles sont faites. Le juge d'instruction du pôle économique et financier de Bamako invite le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, à se présenter à son cabinet le lundi 20 juin 2022. Il est convoqué pour atteinte aux biens publics et autres infractions. À Dioïla, les activités humaines impactent le lit du fleuve. Une situation qui handicape le secteur de la pêche, déplorent les responsables de ce secteur. Les détails avec notre envoyé spécial. Je suis Hamsitou Touré à la présentation. La campagne agricole 2022-2023 se prépare au Mali. Le gouvernement assure que la livraison des intrants agricoles sera faite à temps. Le ministre de l'Économie et des Finances indique qu'à cause de la flambée des prix, la subvention des engrais coûtera à l'État 17 milliards de francs CFA. Un compte rendu signé Mamadou Samaseku.
Plus de 50% des livraisons des intrants agricoles sont faites, selon le ministre de l'Économie et des Finances, Alousseini Sanou.
La flambée des prix des intrants sur le marché mondial est connu de tous. Mais au niveau de la CMDT déjà, nous avons pris le devant et on a lancé les appels d'offres à temps. La livraison aujourd'hui, je n'ai pas les derniers chiffres, mais il y a 15 jours, j'ai discuté avec le PDG de la CMDT, on était à peu près à 50,5% de livraison. Maintenant, au niveau de la zone céréalière, c'est à partir de fin mai que nous devons commencer à avoir les livraisons d'intrants.
À Kita, les producteurs disent n'attendre que ces intrants. Il faut souligner que l'insuffisance d'engrais a impacté négativement le rendement de la production du coton de la campagne précédente. Maganja Keita, paysan.
En cette période, notamment ce mois de mai, nous avons déjà procédé au recensement. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'informations concernant l'arrivée des intrants.
Par contre, à Yourosso, des producteurs reconnaissent que certaines localités ont reçu leurs intrants.
J'ai reçu 180 sacs d'engrais pour le moment en ce qui concerne la campagne cotonnière. Nous n'avons rien reçu pour les maïs et les autres. Pour les pesticides, il y a un stock que nous pourrons utiliser en cas de besoin.
Rappelons que le Mali a retrouvé sa place de leader de l'Afrique subsaharienne l'année dernière avec 760 000 tonnes de production de coton graines.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Les séances d'écoute du projet de loi électorale se poursuivent au Conseil national de transition. CNT, l'organe législatif, a entamé depuis début avril des consultations en vue d'une nouvelle loi électorale au Mali. Ce projet de loi gouvernementale a été soumis au CNT le 6 décembre 2021. Les partis politiques, la société civile et les groupes armés devront être écoutés sur le projet de loi avant son adoption. Moussa Malé Sissoko.
Ce projet de loi électorale prévoit la création de l'autorité indépendante de gestion des élections et la possibilité du vote électronique. Il envisage également la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote, le plafonnement et le contrôle des dépenses liées à la campagne électorale. La commission des lois du CNT continue avec l'audition des sensibilités politiques et sociales sur la nouvelle loi électorale. Après ces consultations, les membres du CNT devront se prononcer sur la loi avant son adoption ou son rejet au cours d'une séance plénière. De son côté, la Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM, salue des avancées dans le processus. Mais la mission demande de revoir le mode de désignation des membres de la commission de sélection pour le recrutement des membres du Collège de l'autorité indépendante de gestion des élections. Elle plaide également pour l'application de la règle de l'alternance homme ou femme pour la constitution des listes de candidatures. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a échangé le 27 avril dernier avec le CNT sur le projet de loi électorale. L'Alliance pour la République, APR, a aussi été reçue par le CNT. La coordination des mouvements de l'Azawad SEMA a eu une séance de travail avec le directoire du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. objectif, parvenir à une harmonisation des vues et des positions sur ce projet.
Les jeunes leaders des partis politiques réclament la participation massive des jeunes dans les processus électoraux au Mali. C'était lors d'une rencontre d'échange et de synergie sur le processus de refondation tenu ce matin à Bamako entre les représentants des jeunes des différents partis politiques. Les détails dans ce reportage de Sita Sidibé.
Pour Mamadou Sansiba, président du réseau des jeunes des partis politiques du Mali, RJPPM, les 60% des postes de nominations doivent être attribués aux jeunes filles et garçons dans les processus électoraux.
Ces travaux ont été sanctionnés par des recommandations par les participants, parmi lesquelles nous pouvons citer une loi fixant un quota de 40% des postes nominatifs et électifs doit être votée en faveur des jeunes. Une relecture de la charte des partis politiques pour une meilleure représentativité des femmes et des jeunes dans les bureaux politiques nationaux des partis politiques à travers un quota de 30% pour les jeunes, 30% pour les femmes.
La représentante de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, Mme Célia Delmé, MEDA rassure que son organisation se veut un outil au service des jeunes. Pour elle, les jeunes doivent être appuyés afin qu'ils aient accès aux postes de responsabilité dans le nouveau Mali.
La participation des jeunes à la vie politique est au cœur du travail du NIMD afin de créer des conditions d'une participation politique efficace ancrée dans les valeurs et principes de la démocratie en promouvant des figures modèles pour améliorer leur accès aux postes nominatifs et électifs.
À noter que moins de 30% des jeunes occupent des postes de responsabilité dans le gouvernement malien, affirment certains participants.
Autre actualité du jour, insécurité, de nombreuses attaques à l'engin explosif improvisé et obus ont été enregistrées ces derniers jours au centre du pays. Face à cette situation, les forces armées maliennes ont multiplié les opérations de sécurisation dans la dite zone. Selon le ministre de la Défense, l'armée malienne détient l'initiative sur le terrain et traque les terroristes dans leur dernier retranchement. Khalifa Gouy.
Dans une note publiée ce mercredi, l'état-major général des armées indique qu'une unité des FAMA a été la cible d'engins explosifs improvisés. 4 militaires sont morts et un autre blessé dans cette attaque survenue hier dans le secteur de Djéné. Auparavant, à Ténénkou, dans la région de Mopti, le 9 mai dernier, l'armée a détruit le pas des tirs ennemis. Cette offensive a permis la blessure d'un terroriste interpellé et mis à la disposition de la gendarmerie. Ce même jour, l'armée a comptabilisé 10 obus tirés par des terroristes dont 3 ont pu atteindre la localité de Djondori. 2 enfants âgés de 7 et 4 ans sont morts et 4 autres civils blessés, ajoute l'armée. Au même moment, des sources locales à Doukiré et Nyambourgui, dans le cercle de Goundam, région de Tombouctou, confirment la présence des présumés djihadistes qui intruisent l'application stricte de la charia. À Banimbangou et Danyan, cercle de Diré, les femmes sont obligées de porter le voile noir par menace des hommes armés. Notons que dans une interview diffusée à la télévision nationale, le ministre de la Défense et des anciens commandants, colonel Sadio Camara, a rassuré que les forces armées maliennes sont bien équipées, mieux formées à hauteur de souhait pour répondre aux aspirations des Maliens en matière de sécurité.
Je l'annonçais dans les titres, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est convoqué par la justice malienne dans une enquête pour atteinte aux biens publics et autres infractions. Selon la convocation datant de ce mercredi 11 mai, le juge d'instruction du pôle économique et financier de Bamako invite M. Jean-Yves Le Drian à se présenter à son cabinet le lundi 20 juin 2022. Pour affaire le concernant. Pour le moment, le Quai d'Orsay n'a pas encore réagi sur cette convocation, mais des spécialistes expliquent qu'elle peut compliquer davantage les relations entre les deux pays. Les détails avec Draman Maïga.
Pour des juristes maliens, cette convocation du ministre français a de fortes chances de ne pas aboutir. Toutefois, ces derniers expliquent qu'il pourrait être jugé par contumace, même s'il ne s'est pas présenté. Ibrahim Khalil Touré, juriste.
Eu égard au statut du monsieur et eu égard à la difficulté de collaboration entre la justice malienne et française, surtout avec la tension diplomatique en cours, il sera difficile que les autorités française mette à la disposition du Mali la personne mise en cause.
Du côté des politologues, on estime que cette affaire pourrait encore compliquer davantage les relations diplomatiques entre les deux pays, même si ce dossier n'est qu'au stade de l'enquête. Balanja Kité, politologue.
Non, les conséquences ne peuvent qu'être des conséquences fâcheuses, parce que des situations ou des décisions de justice de ce genre ne peuvent que compliquer davantage une situation qui est déjà dans une phase de détérioration.
Il faut noter que cette affaire date de 2015. À cette époque, une société française à laquelle le fils de Le Drian serait lié a obtenu pour une dizaine d'années le marché de fabrication des passeports biométriques maliens. Le pôle économique et financier de la commune 3 de Bamako cherche à comprendre si Le Drian a usé de son influence du ministre de la Défense à l'époque pour avoir ce marché.
Direction Djoïla, où les acteurs du secteur de la pêche dénoncent l'instabilité du personnel, mais aussi l'insuffisance de matériel de travail et de moyens de déplacement. Une situation qui handicape la couverture de tout le cercle, affirme-t-il. À cela s'ajoute le manque de crédit de fonctionnement, alors que le secteur contribue à des dizaines de millions de francs CFA à l'économie locale. Par ailleurs, les responsables déplorent la dégradation du fleuve par les activités humaines. Les détails avec notre envoyé spécial à Djoïla, Imrana Kilumeiga.
Le secteur de la pêche de Djoïla encadre 23 communes du cercle, dont 16 riveraines. Selon ses responsables, des missions de contrôle sont menées pour veiller sur les quantités de poissons pêchés et sur la protection de la qualité de l'eau. Ils exhortent les autorités au renforcement des équipements d'unités de surveillance. Abdoulaye Diarra, chef section par intérim du secteur de la pêche à Djoïla.
Suivons toutes les activités pour les suivre afin de ne pas qu'ils fassent du n'importe quoi dans le fleuve. En termes de matériel, nos machines sont vêtues, les antennes ne sont pas tous pourvus, les moyens de déplacement aussi manquent.
À ces difficultés s'ajoute l'absence d'une unité de fabrication d'aliments à Djoïla et un problème de conservation et de commercialisation du poisson. En outre, les acteurs du secteur déplorent aussi le désagrément que les travaux du pont les ont causé. Madame Diakité Fanta Diarra, présidente de l'Union de coopératives des caisses piscicoles flottantes.
Nous avions beaucoup profité de ce système. Chaque 6 mois, nous avions beaucoup de poissons. Mais depuis que les travaux de la route ont commencé, la terre rouge a eu raison de nos poissons de 5 mois. Ils ont pollué l'eau.
À travers cette activité de vente de poissons, les femmes de Djoïla ont aidé les hommes à construire des centres d'alphabétisation, de conservation de l'oignon et des mosquées. De Djoïla, Imrana Kilomaïga pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, nous recevons Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Sékou.
Bonsoir M. Toutouré.
Alors, de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Action humanitaire, quels sont les défis au Mali? C'est le thème du Grand Dialogue de ce soir. Nos invités sont Mahamadou Lamine Camara, chargé de mission au ministère délégué chargé de l'action humanitaire, de la solidarité, des réfugiés et des déplacés. Nouhoum Maïga, secrétaire général national de la Croix-Rouge malienne, et Ibrahima Kone, chargé de communication à OCHA, l'agence onusienne de coordination des actions humanitaires au Mali.
Merci Sékou. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. L'accès à l'acte de naissance dans la commune urbaine de Bla est de plus en plus facile. Selon les responsables de cette mairie, la formation et l'installation des agents de l'état civil dans les villages ont facilité l'octroi de ce document. Plus de 600 actes de naissance ont été délivrés par la mairie de janvier à mars 2022. Birama Wolegem est le troisième adjoint au maire de la commune urbaine de Bla. Il répond aux questions de Moussa Malé Sissoko. De retour de Bla.
Je dis, l'état civil à Bla se porte très bien. Preuve, nous avons eu à travailler avec d'autres communes, mais quant à la commune de Bla, en 2017, nous avons eu à faire une formation des agents de l'état civil.
Au niveau de votre mairie, quelle stratégie vous avez mis en place pour que tous les enfants puissent avoir un acte de naissance?
Au niveau de la commune de Bla, nous avons 19 villages, mais dans 16 localités, nous avons, c'est-à-dire que quand on dit agent de l'état civil, il faut commencer d'abord par les agents de déclaration, des agents de déclaration. Donc ces agents de déclaration directement enregistrent les faits d'état civil au niveau de leur localité. La plupart sont des gens de la santé ou bien de l'éducation, parce que c'est des gens qui sont permanents dans ces villages-là. Donc on les a pris, il y a eu une décision et il y a eu une formation en 2017 et tout de suite en 2022, avant même le mois de carême, il y a eu une autre formation par rapport à l'accès à l'état civil.
Alors, monsieur le maire, cette politique a permis à combien d'enfants d'obtenir ce document?
Le premier trimestre de l'année 2022, en naissance, par exemple, à la date d'aujourd'hui, nous avons 660 naissances enregistrées.
Est-ce que le jugement supplétif est aussi délivré par votre mairie?
Parce qu'il y a des grandes personnes, pour quand même vraiment leur permettre de venir à l'état civil, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le nombre de jugements supplétifs, souvent ça augmente. Ça dépend de la situation administrative des intéressés.
Qu'en est-il des autres documents d'état civil?
Quant au mariage, nous avons 72 mariages. Entre janvier, février, mars, les décès, il y a 27. Par exemple, quelqu'un qui a passé au DF ou à un examen, déposé un dossier quelconque, il peut venir avec la photocopie, avec l'original de l'acte. Et c'est au vu de l'original de l'acte qu'on fait la légalisation. Par exemple, il y a le certificat de résidence des parents pour les élèves qui veulent aller à l'université. Il y a le certificat de résidence de la personne elle-même pour vraiment ouvrir un compte ou bien avoir vraiment un permis de conduire. Donc, il y a deux sortes de certificats de résidence. Certificat de résidence simple et certificat de résidence des parents de l'élève. Également, il y a le certificat de non-remariage. Ça, c'est pour les veuves.